L'info du jour avec aujourd'hui Catherine Pocheton pour son livre « Baptiste de Mauthausen à Courchevel ». Catherine Pocheton, vous êtes aussi par ailleurs la présidente de l'association Le Patrimoine à Villarnard et vous êtes membre de l'association L'Amicale de Mauthausen. Et à ce titre, vous organisez régulièrement des voyages dans ce camp de concentration tristement célèbre. Au moment où nous nous apprêtons à célébrer les 75 ans de Courchevel, votre ouvrage, il faut bien le dire, tombe à point nommé, car s'il relate cette terrible période de la Seconde Guerre mondiale, il décrit aussi l'ambiance d'après-guerre au moment de la naissance de Courchevel, mais aussi l'atmosphère qui a précédé cette période. Votre père a eu une vie plutôt hors norme, faite d'une succession d'événements, dont certains dramatiques. C'est cela que vous avez couché sur le papier pour conserver intact le souvenir d'une vie qui correspond à une époque forte de notre histoire. Baptiste de Mauthausen à Courchevel n'est pas seulement un livre sur les camps de concentration, il dépeint aussi des périodes qui ont précédé sur Saint-Bon, alors que votre père, Baptiste Chevalier, donc, travaillait pour le Lac Bleu, qui existait déjà, n'est-ce pas ?
Oui, oui. Il y a aussi la Perrière, parce que papa est né à Champetel, c'était aussi sur Villarnard, donc très ancré sur la région de la Perrière. Ensuite, c'est vrai qu'il travaillait au Lac Bleu.
Mais qu'est-ce qu'il faisait d'ailleurs exactement à cette époque ? Qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme métier au Lac Bleu à cette époque ?
Eh bien, c'était sa passion déjà pour le ski. Le saut à ski, le ski, ses plaisirs qu'il avait à partir des journées entières, emmener certains clients qui venaient de Lyon au début, après qui sont arrivés de Paris, mais qui montaient jusqu'aux pyramides et tout ça, donc en peau de phoque.
Oui, c'est toute l'histoire des prémices de la station.
Exactement.
S'il est né en 1921, il s'est retrouvé évidemment à l'âge du travail obligatoire, le fameux STO, pour lequel d'ailleurs il a été réquisitionné.
Il a été réquisitionné, il a eu sa belle petite carte sur laquelle il avait indiqué que, eh ben non, il ne voulait pas y aller.
Oui, ça donc, on parle de quelle année là ?
On est en mars 43. Il n'a pas tout à fait 21 ans. Il a cette carte de STO.
Oui, mais qui ne lui convenait pas du tout, évidemment, non, parce que ce n'était pas assez actif pour lui. Ah, et c'est là qu'il décide d'entrer en résistance.
Exactement. Donc il rentre en résistance sur la Perrière. Ensuite, la Tania, parce qu'il y avait des factions un petit peu différentes sur les maquis. Et puis ensuite, là, il va rester jusqu'au été-hiver 43-44.
Catherine Pocheton, c'est une histoire intéressante à raconter en ce moment, tant il est en résonance avec ce qui se passe dans l'Est de l'Europe.
Hein. Eh oui.
C'est évidemment toutes ces périodes compliquées de l'histoire où tout à coup il faut faire des choix,
oui,
qui sont lourds.
Et il faut être très attentif à ce qui se passe. C'est pour ça que quand on parle de liberté, quand on parle d'humanité, pour moi ça a un sens vraiment très 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 personnel, très ancré dans la vie d'aujourd'hui. Parce que...
Alors aussitôt entré en résistance, bien sûr il est dénoncé, il est arrêté. Cela s'est passé donc à Champetel. Hein. Et à partir de là, eh bien, c'est le circuit de l'horreur qui commence, si l'on peut dire.
Donc il est arrêté le 5 juin 1944, à la veille du débarquement. Il est arrêté à Champetel avec deux autres personnes qui étaient des alus, des copains à lui. Donc ils sont arrêtés, ils sont emprisonnés dans un premier temps à Moutier. Et ils y restent à peu près une semaine. Ils partent ensuite à Chambéry, toujours encadrés par la police de Pétain. Ils arrivent à la prison Saint-Paul de Lyon.
Oui.
Et là, à la prison Saint-Paul de Lyon, ils sont embarqués en fin juin 44 dans des wagons à bestiaux en direction de Dachau.
Alors c'est Dachau dans un premier temps, hein,
oui,
pour se retrouver à Mauthausen ensuite.
Oui, alors Dachau, il est immatriculé 75-660, parce que tout de suite, ils ne sont plus des hommes, ils sont des numéros.
Comme on va parler de Mauthausen, il faut dire que Mauthausen est un des deux seuls camps du système concentrationnaire nazi classé de niveau 3. Ces camps étaient destinés pour les plus durs prisonniers, qui n'étaient d'ailleurs pas censés revenir.
Exactement, voilà. Mais il n'a pas fait partie de nuits et brouillards, c'est-à-dire des personnes qui arrivaient et qui était condamné. Lui, il a été dans un camp de quarantaine à Mauthausen ensuite. Dans ce camp, il a été enregistré 89-271, parce que là, c'est un autre numéro. Et il y reste à peu près 2 semaines. Il n'y est pas resté longtemps, parce que c'était très dur. Hein. De toute façon, ce n'était pas un camp de vacances. Ensuite, il est désigné pour aller sur un camp, un commando de travail, sur la frontière austro-russe. yougoslave
à l'époque.
Voilà, pour percer le tunnel pour le Troisième Reich.
Oui, là, c'est évidemment pas du travail obligatoire, mais bien du travail forcé. Hein.
Ah là,
oui. Et c'est lors de cette détention à Ljubelpass, hein, donc, que votre père a réussi à s'évader. Alors seulement, voilà, hein, lorsqu'on est au fin fond de l'Autriche en pleine guerre, il ne s'agit pas seulement de s'évader, il faut aussi survivre et donc aller du bon côté, c'est-à-dire celui de la résistance, c'est ça ?
Il s'évade le 6 octobre 44, quand il y avait ces interminables séances d'appel dans les cours du camp. Il voyait la montagne autour de lui et c'était un appel, c'était un appel. Comme on était en octobre, il s'est dit, bon, il est arrivé au commando de Ljubelpass fin août, et il a dit, il ne faut pas que j'y passe l'hiver. Si oui. Je passe l'hiver là, ça va être dramatique. Et donc, il s'évade, il demande à 2-3 copains, parce que c'est vrai qu'il fallait faire très attention à qui on s'adressait, et les copains disent, non, moi ça fait plus d'un an que je suis là, je suis trop fatigué, je ne peux pas partir avec toi. Et donc, papa est parti tout seul.
Et par chance, si l'on peut dire, il est parti du bon côté, c'est-à-dire du côté yougoslave, et il a été récupéré, là, pour le coup, par des anti-nazis.
Voilà, par des anti-nazis, puisque la Yougoslavie était anti-nazie, il y avait beaucoup de résistance. Le camp du Ljubel, il y avait le camp nord, qui était du côté autrichien, et le camp sud, du côté yougoslave. Ceux qui avaient la chance, entre guillemets, de pouvoir être pris en charge par la résistance yougoslave, étaient à même de pouvoir survivre et d'être aidés. Que de l'autre côté, du côté autrichien, le régime n'était pas le même.
Alors on est obligé d'aller très très vite, hein, alors que c'est une longue histoire, mais il a été blessé, il a été soigné dans un hôpital clandestin, puis ensuite, évidemment, il est rentré en France en juillet 45, mais par Marseille.
Voilà, par Marseille. Il a été opéré et soigné d'une blessure à la cuisse, et un éclat d'obus. Il a été soigné dans un hôpital clandestin yougoslave.
On n'ose pas imaginer l'hygiène. Ouais.
Après, il a fait un deuxième hôpital en convalescence. Pareil, si on peut le mettre entre guillemets. Et puis ensuite, il est rentré par Marseille. Il n'est pas rentré comme les déportés, la plupart des déportés par le Lutetia à Paris.
Et donc, du coup, eh bien, finalement, il se retrouve sur notre commune désormais. Et rapidement, il se retrouve au Lac Bleu.
Voilà. Et il reprend ses... Bon, il passe tout l'été. Il rentre au mois de juillet 45. Il y avait les champs, il y avait les pommes, il y avait les foins.
Alors, c'est là d'ailleurs que la grande histoire que nous venons de décrire rejoint l'histoire de Courchevel et ses 75 ans, puisque plus tard, il va succéder à Jean Pachot à la direction de l'école de ski de Morion. On peut dire que c'était un des pionniers de l'enseignement. Il faisait partie de ces quelques-uns sur la vallée, n'est-ce
exactement,
pas ?
Exactement. Il est directeur de l'école de ski de Morion au tout début des années 60. Il va y rester 7-8 ans. Il va être moniteur toute sa vie et amoureux de la montagne et puis de la nature.
Et puis on va rappeler aussi qu'évidemment, c'est votre père hein, qui a ensuite créé l'Arbé, qui est un peu connu sur Courchevel.
Oui, exactement. Et que ma sœur a tenu pas mal de temps.
Catherine Pocheton, sur la couverture du livre appelé Catherine Chevalier Pocheton, on comprend pourquoi. Ça n'est pas votre métier d'écrire, vous y avez pris du plaisir ?
Pas du tout. Oui, au début, oui, beaucoup. Au début, j'étais très inquiète et tout ça, je ne savais pas comment commencer le bouquin, si j'allais l'écrire nous, mon frère, ma sœur, voilà. Et puis en fait, j'ai mis beaucoup de temps pour démarrer et après c'est parti, j'ai quand même mis 3 ans pour l'écrire, mais j'ai pris un plaisir fou à enregistrer les personnes, les témoins et tout ça, et puis à chercher toutes les documentations, ne pas me tromper sur les dates, sur les lieux, etc. Des souvenirs, en amener d'autres, ça a été vraiment pour moi une thérapie, peut-être aussi quelque part.
Il est très difficile évidemment de résumer un livre en quelques minutes, mais par contre il est très facile d'aller l'acheter pour se plonger dedans. C'est possible d'acheter Baptiste de Mathausen à Courchevel, aux Fontaines de Siloé. Vous pouvez le trouver sur Courchevel à la Maison de la Presse, ou alors chez U-Culture à Salins-les-Thermes, ou alors chez Carrefour, ou alors aussi bien évidemment sur les vendeurs sur Internet. Enfin voilà, il est possible de le trouver un peu partout. Catherine Pocheton, merci d'être venue en cette journée pour nous parler de ce livre.
Merci à vous.